Je vais donc faire une présentation rapide. Nous sommes très heureux avec Mantia Diawara d'accueillir Francine Saillant dans le cadre de ce programme Diversité des expériences et causes communes. Et beaucoup d'entre vous connaissent Francine, mais je vais néanmoins la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas et aussi pour ceux qui verront ensuite la retransmission de sa conférence. Donc Francine Saillant est professeure et chercheure émérite au département d'anthropologie de l'Université Laval à Québec au Canada. Elle est membre du Centre de recherche sur les cultures, les arts et les sociétés, le CELAT, dont elle a été d'ailleurs la directrice. Centre qui a développé de façon pionnière des recherches sur la question du vivre ensemble, qui est aussi un des thèmes qui nous réunit. Francine Saillant a dirigé pendant 10 ans la revue de référence Anthropologie et Société. Elle a également été présidente de l'Association canadienne d'anthropologie. Et ces travaux ont été menés successivement dans 2 grands domaines, l'anthropologie de la santé d'une part et l'anthropologie des droits humains d'autre part. Sur ce dernier thème, elle poursuit des recherches sur les discriminations fondées sur l'idée de race, mais aussi sur d'autres formes de discrimination basées sur la construction sociale des différences, qu'il s'agisse du handicap, des migrants, du genre par exemple. Et elle s'intéresse aux divers usages et interprétations qui sont faites des notions de justice et de droit, et de façon plus générale à la vie sociale des droits. Elle est co-auteure ou auteure ou directrice d'une 30aine d'ouvrages, parmi lesquels je n'en citerai que 3 à titre indicatif. Identité et handicap 2007, Le mouvement noir au Brésil, Academia 2014, et Droit et culture en mouvement 2012 avec Caroline Truchon. Elle a également réalisé ou co-réalisé plusieurs films et c'était aussi une des raisons de notre petit ou grand retard. Nous allons en voir un petit extrait en introduction de sa conférence. Mais je voudrais dire pour terminer que présenter Francine Saillant, ce n'est pas uniquement présenter une carrière académique, si honorable et brillante soit-elle. Francine Saillant est aussi une femme engagée. Elle est engagée dans sa discipline et elle est engagée dans la société. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est important. Alors, dans sa discipline, eh bien, elle est co-signataire avec Monder Kilani et Florence Grézer de Manifeste de Lausanne pour une anthropologie non hégémonique qui propose un travail d'élaboration critique sur les pratiques et sur les fondements, les concepts de l'anthropologie aujourd'hui. Manifeste important qui a débouché sur le projet d'un dictionnaire d'anthropologie en ligne, le projet Anthropène. Et puis, Francine Saillant a œuvré et continue d'œuvrer pour faire largement connaître les contributions du milieu associatif, notamment à l'avancée des droits et de la diversité sociale. Et dans cette perspective, je terminerai là-dessus, elle a accepté, ce qui était un sacré défi, je crois, de rédiger un ouvrage pour l'UNESCO à paraître en mai prochain. Et dans cet ouvrage, allant au-delà du thème un peu, disons, usuel de la diversité culturelle, du dialogue des cultures, il s'agit pour elle d'explorer en quelque sorte, comme elle le dit, la diversité des diversités, ou encore les multiples façons d'échanger, à travers d'échanger, de partager, à travers des expériences pédagogiques, associatives, diverses, et expériences venues du monde entier. Donc nous découvrirons aussi ce travail de Francine Saillant en mai prochain. Voilà.
Merci.
Je tiens.
Ah, merci beaucoup pour cette présentation et je veux profiter de l'occasion pour te remercier, Nicole, pour cette invitation et remercier aussi Mantia Diawara et la Maison des sciences de l'homme, NYU et l'Institut du Tout Monde qui sont tous partenaires dans cette initiative de conférence. Je suis honorée d'être ici et extrêmement heureuse de pouvoir prendre la parole dans un contexte où aussi sont rassemblés un certain nombre de mes très grands amis. C'est aussi ça, la science. Ça ne se fait pas de façon abstraite. On est aussi avec d'autres et dans des réseaux, et c'est heureux que ces réseaux, de temps en temps, puissent s'incarner. Alors, ce dont je vais parler, c'est de cette recherche conduite au Brésil pendant plusieurs années, principalement à Rio de Janeiro, mais aussi à São Paulo et à Brasilia, et autour d'une question. Qu'est-ce que réparer? Est-ce que c'est possible de réparer les conséquences de faits historiques survenus sur plusieurs siècles? Dans le cas de l'esclavage au Brésil, on parle du 16e siècle et on arrive jusqu'au 20e siècle. On parle de la colonisation et on parle de l'esclavage. On parle de 4,5 millions de personnes venues d'Afrique et qui ont contribué à construire le patrimoine brésilien, qui ont contribué à enrichir la société brésilienne, qui ont habité, travaillé, qui ont été aussi considérés en tant que biens meubles, vendus, achetés. Est-ce que cette histoire et toutes ses conséquences peut trouver, en quelque sorte, une forme ou des formes de réparation? Aujourd'hui, des jeunes hommes noirs, tous les jours, meurent dans les favelas du Brésil. Ils sont assassinés par la police ou par les narcotrafiquants. Ils vivent dans des situations de pauvreté, souvent extrêmes, qui les amènent à vivre d'un commerce illégal. Est-ce qu'ils sont les héritiers de cette histoire? Est-ce qu'il y a un lien entre cette expérience de ces jeunes et ce qui s'est passé dans l'histoire même du Brésil? Bien sûr, il y a matière à un immense débat sur cette question. Ce qu'on nomme « negros »,« afro-brasileiros », »,« afro-descendentes », mais aussi ceux qui sont dissimulés sous des termes comme « pardos », c'est sans couleur colorée, et qui compte dans cette large population arrivée d'Afrique et qui se mélangèrent aux euro-descendants. Ceux qui disent que l'esclavage n'a jamais été vraiment aboli, et pourtant, il y a eu abolition officielle en 1888, la dernière à survenir dans les Amériques. Et après 4 tentatives d'abolition, 4 moments forts pour arriver à 1888. C'est la situation de post-abolition qui a laissé les Afro-Brésiliens dans une situation que certains historiens ont qualifié de quasi-cidadan ou de cidadazinha, la petite citoyenneté, on dirait en français, des citoyens de seconde zone. Donc, autour de ça, comment est-ce que ces Afro-Brésiliens, qui héritent d'une histoire et d'une mémoire, pensent la question des réparations et est-ce qu'ils la pensent? Je souhaiterais donc réfléchir avec vous sur cette situation. J'ai donné l'exemple des jeunes noirs assassinés tous les jours dans les favelas, jeunes hommes noirs. Mais il faut rappeler qu'au-delà de ces assassinats, la population noire reste parmi la moins bien logée, celle qui a le moins accès à une instruction avancée, celle qui compte parmi les plus pauvres, celle qui vit en majorité dans les favelas, dans les baixadas. Est-ce que cette idée de réparation a un sens au Brésil? Est-ce qu'elle a une signification? Est-ce que au fond, elle est mobilisée quelque part dans des portions de cette société? Est-ce que ceux qui, en quelque sorte, portent une conscience historique de l'esclavage et de ce que cela a signifié en termes de régime autoritaire, ceux qui portent et réfléchissent sur ce que Myriam Cotias aurait appelé la condition noire au Brésil, Est-ce que ces personnes parlent, expriment quelque chose autour des réparations? Avant d'aller un peu plus loin, je fais trois petites remarques. La première, lorsque j'ai commencé à faire ce travail, ici en France, on m'a dit « Ah, mais il n'y a pas de mouvement noir au Brésil, ça n'existe pas. » J'étais un peu surprise, mais comme je suis quelqu'un de très têtu, je n'ai pas écouté complètement cette affaire-là. Je me suis dit peut-être qu'il y a un point de vue classiste sur le mouvement social, avec une vision comme celle-là, et peut-être aussi que j'ai affaire à un certain républicanisme, peut-être. Deuxième remarque, je me trouve au Brésil, devant aussi des intellectuels qui me disent « Ah, mais les réparations, ce n'est pas une catégorie qui existe au Brésil. Personne ne parle comme ça. Réparação, non tem. » Alors, j'écoute pas ça non plus, puisqu'une recherche est une recherche. On est là pour tenter de trouver, de voir, de comprendre ce qui semble à l'arrière-plan et de le placer en avant-plan. Troisième petit événement, je me trouve devant deux intellectuels brésiliens de très grande réputation qui me reçoivent. Et à ce moment-là, tout à l'heure, Madame Lapierre a souligné que, bon, j'ai été présidente de la Société canadienne d'anthropologie, j'ai été directrice d'une revue, Anthropologie et Société. À ce moment-là, j'ai un financement pour faire ma recherche et j'ai présenté ce projet à mes collègues brésiliens avec l'idée d'avoir des interlocuteurs. Et ces gens avaient vu dans mon projet comprendre la notion de réparation à partir des perspectives du mouvement noir. Je sens un immense malaise, un très grand malaise, et je ne saisis pas très bien ce qui arrive. Et ce qui arrive, on me dit, vous êtes canadienne, je suis extrêmement étonnée par la question, et la Québécoise que je suis, en certaines circonstances, va répondre, bien sûr que je suis canadienne. Nouvelle question, vous allez terminer avec le multiculturalisme? Là, je suis encore plus étonnée. Alors, ne sachant pas quoi dire devant une telle question, je finis par répondre, ah, mais vous savez, au Canada, le multiculturalisme, c'est une loi. Et j'attends de voir ce qui va arriver. Et là, je continue à sentir ce malaise que j'ai compris quelques jours plus tard, en poursuivant le terrain. Ce dont il était question, c'était de pluralisme, de version du pluralisme. Et à ce moment-là, on était en plein débat sur les quotas, sur l'accession des Noirs à l'université, sur leur place, la légitimité de leur place. Et ces anthropologues, malheureusement, luttaient contre l'idée de quotas et l'idée, dans le fond, d'une forme de réparation. Et peut-être pensaient-ils que les réparations se réduisaient à cette idée de quota, alors que dans mon esprit, j'en étais pas du tout là-dessus. Alors, vous voyez un peu un contexte étonnant où rien ne semble évident, mais c'est ça qui fait la recherche et c'est ça qui fait son intérêt. Face à ces anthropologues, je me dis, ah, mais il y a les anthropologues qui aiment bien Xangô, qui aiment bien les catégories culturelles du candomblé, qui aiment bien la religiosité afro-brésilienne et qui vont penser que l'authenticité du sujet brésilien se trouve de ce côté-là. Et il y a d'autres anthropologues qui ne sont pas rébarbatifs à la question sociale, puisque celui qui est de Xangô peut très bien se retrouver dans une manifestation pour réclamer des quotas dans les universités. Ce n'est pas du tout antinomique et vécu de cette manière-là au sein même de la population et des militants noirs brésiliens. Mais dans la discipline, parfois, on sépare un peu trop les choses. Autre petite chose, vous allez m'entendre utiliser le mot « noir ». Je sais qu'il est extrêmement polyphonique. Donc, je n'entre pas dans le débat, est-ce qu'on doit dire noir ou pas. Je l'utilise comme le mouvement l'utilise et aux questions de revenir à la fin, si vous le voulez bien. Autre point, Je vais me concentrer sur la période de 2000 à 2010, qui a été une période absolument extraordinaire, d'effervescence inégalée dans le mouvement, et qui le mouvement a joui à ce moment-là d'un soutien périodique du gouvernement passé, maintenant, du Parti des travailleurs, le gouvernement de Lula, le gouvernement de Dilma. Et actuellement, le Brésil vit des conditions, une situation d'usurpation du pouvoir, comme vous le savez. Je ne vais pas entrer non plus dans cette question. Je préférerais qu'on réserve l'échange autour des conséquences, finalement, de ce gouvernement sur ce qui est arrivé en positif durant la période qui a été celle de mon étude. Alors, c'est donc pour moi-même à la poursuite de cette idée de réparation que je suis allée. 150 entretiens avec des leaders religieux, culturels, politiques, de droits humains, de toute tendance à l'intérieur du mouvement, de toute appartenance religieuse aussi. J'ai aussi eu le privilège d'être reçue dans toutes sortes de contextes par des milieux associatifs, par exemple des regroupements de femmes qui travaillent la question de l'incarcération de leurs fils ou des assassinats de leurs fils dans les favelas, qui ont à vivre avec la réalité des prisons pour jeunes au Brésil. J'ai été reçue dans des terreiros de Candomblé. J'ai été reçue à Brasilia, à la CEPIR, une organisation qui travaille la question de l'égalité raciale. J'ai suivi de multiples manifestations culturelles, politiques. J'ai filmé. J'ai suivi la piste de l'idée, en tentant de saisir, dans le fond, cette espèce de nuage dans lequel, à différents moments, dans différents contextes, ça va s'incarner. Une idée qui est partout à la fois, qui diffuse et qui, en même temps, à certains moments, devient explicite. Le mot est utilisé, parfois non. Parfois, on le voit sur une pancarte. « Réparation, ja, maintenant ». Parfois, ça arrive dans les années 80, on retrouve ça dans les années 2010. Donc, ici, parler des réparations, d'une certaine façon, c'est-à-dire par le bas. S'il existe un bas, il existe un haut. Par le haut, de quoi je parle? Je parle de ce qui arrive par le gouvernement, par l'État, par l'institution du droit. Par exemple, les pardons. C'est une forme de demande de réparation, c'est une forme de réparation symbolique que l'État fait dans certains contextes. Ce n'est pas celle-là qui m'intéressait le plus, mais bien ce que j'appelle les réparations par le bas, celles qui viennent de la société civile, celles qui viennent des milieux associatifs de toutes catégories, celles qui arrivent finalement à travers des actions quotidiennes conduites, des mobilisations également conduites par des sujets, des individus qui recherchent une transformation sociale. Nous connaissons le contexte de la restitution des biens après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé avec le nazisme, les camps de la mort, ce qui est arrivé aux personnes, aux biens, aux avoirs des personnes juives. On parle dans ce cas-là souvent de personnes dont on a identifié qui ils étaient. On a identifié des bourreaux, on a identifié des biens. On a pu, par l'institution du droit, du fait qu'il s'agissait d'un temps court, même si l'antisémitisme c'est quelque chose de beaucoup plus large, mais il s'agissait quand même d'un temps trop long mais court, où est-ce qu'on pouvait travailler la question des réparations, de certaines formes de réparations, de manière juridique? Le droit y pouvait quelque chose. Lorsqu'on parle du contexte de la colonisation et de l'esclavage, et de ses conséquences, et de ses formes de reproduction, nous sommes dans un temps extrêmement long, 400 ans d'histoire, minimalement. on est aussi devant une situation de flou par rapport à ce que signifie pour le droit identifier des victimes, identifier des bourreaux, des propriétaires. Ce que ça veut dire, au fond, travailler dans les limites d'une temporalité longue et d'acteurs difficilement identifiables. Alors, ce qui ressemble le plus à cela, c'est la situation des peuples autochtones, avec des conditions relativement similaires, quoique différentes, bien entendu. Comment est-ce que, en ce qui concerne l'esclavage au Brésil, avec ses propriétaires disparus, ses esclaves disparus, des esclaves qui devinrent propriétaires, il ne faut pas l'oublier, un esclavage diffus dont on a dit qu'il était plus doux qu'ailleurs. Est-ce qu'un esclavage illégal, nous avons ici Hebe Matos, qui est la spécialiste de cette situation au Brésil après 1888, l'esclavage continue de manière un peu à côté. Alors devant tout ça, devant cette complexité, comment penser des réparations quand on a un crime qu'on a appelé crime contre l'humanité? Cette catégorie n'est pas partagée par tout le monde, mais elle est utilisée. Je vais y revenir. Alors, c'est ici que, je crois, l'anthropologie, la sociologie peuvent être d'un certain secours afin de tenter d'appréhender cette idée de réparation par le bas. Suivre, d'une certaine manière, le fil d'une idée floue, incertaine, complexe, contestée, contestable, débattu, mais qui trouve une certaine légitimité chez certains acteurs et qu'on pourrait appeler les héritiers de l'histoire et d'une histoire dont ils sont partie prenante. Cette idée-là va s'incarner dans des pratiques sociales, politiques, religieuses, culturelles, de droit. J'ai un peu tenté de faire un peu comme Arjuna Padurai parle de la vie sociale des choses, de partir du point de vue de la vie sociale des droits, en m'appuyant également sur Mark Goodale, cet anthropologue des droits, qui est à Lausanne maintenant, et de prendre une catégorie juridique, parce qu'en principe, la notion de réparation, c'est une catégorie juridique, et de suivre la vie sociale des réparations, et de là cette idée de prendre les réparations par le bas. Je vais donner quelques exemples. Bien entendu, il y en a des centaines d'exemples. Il fallait en choisir quelques-uns pour pouvoir partager ces réflexions avec vous. J'en ai choisi. Sur le plan politique, il faut se rappeler que les demandes du mouvement noir, depuis les années 30, à São Paulo, au moment de la création de la presse noire, la première fois que des journaux sont écrits, publiés par ceux qui étaient les premiers descendants des esclaves, dans les sillons aussi du mouvement abolitionniste. Donc, ces personnes vont réclamer déjà une meilleure éducation. Ils vont être les initiateurs d'une certaine pensée des réparations. Mais à partir des années 80, dans le contexte de ce qu'on pourrait appeler le mouvement noir contemporain au Brésil, va se créer à Rio des institutions académiques. Mais des institutions académiques dans des universités privées, comme celle, par exemple, de Cândido Mendes, où des jeunes noirs de milieux populaires vont être accueillis dans des universités via des programmes soutenus par le clergé catholique ou le clergé protestant de l'époque. Ce soutien va venir d'hommes du clergé qui eux-mêmes sont noirs. Et qu'est-ce qu'il va arriver? On va commencer à créer, je dirais, une sorte de milieu de débat, de discussion. Et ces jeunes vont créer des événements, des colloques, mais d'un nouveau genre, puisque déjà, ils font venir des personnes qu'on va appeler aujourd'hui de la société civile. Ils font venir des artistes, ils font venir des militants, ils font venir, au fond, leur réseau à l'intérieur de cette université privée, et ils vont de plus en plus gagner une certaine force dans, au sein même d'une institution dont ils étaient historiquement exclus. Ils vont poursuivre le développement d'une certaine idée, celle de la culture afro-brésilienne. Mais ils vont suivre en cela les gestes posés par d'autres dans les années 40 notamment, qui avaient formulé les premiers congrès noirs afro-brésiliens et qui faisaient exactement la même chose. Quand on regarde ce qui reste de cela, les écrits, on se dit c'est étonnant parce qu'on voit de tout là-dedans. Ce ne sont pas de vraies annales académiques au sens où on les entend aujourd'hui, mais c'est une trace de ce qui tentait de se faire et qui n'était pas normal dans une académie à ce moment-là. Ils vont reproduire ces gestes qui vont aussi avoir été reproduits par un Abdias do Nascimento qui, dans les années 50 et dans les années et plus tard, va créer aussi des événements de ce genre. Donc, à la marge et dans l'académie, développer des façons de faire, des formes de pratique qui allient ensemble société civile, académique et personnes qui souhaitent faire advenir la légitimité d'un espace de débat, de discussion et d'existence pour la culture afro-brésilienne. Ces personnes ont inspiré aussi le mouvement, en particulier les jeunes qui, dans les années 80, entrent dans une université comme Cândido Mendes, mais ailleurs, vont inspirer le mouvement des quotas qui a ébranlé le Brésil dans les années 2000, puisqu'à ce moment-là, au Brésil, la société est très, très divisée autour de personnes qui croient que les universités vont baisser en qualité et que ce n'est pas le bon geste à poser et qu'on fait du racisme à l'envers en créant des espaces pour les Noirs dans les universités. Et d'autre part, vous avez ceux qui militent en faveur de cet accès-là. Pour moi, du Québec, c'est quelque chose que je connaissais bien puisque les arguments à l'époque de mon entrée à l'université, je les avais entendus par les femmes. Si on fait entrer les femmes avec des choses spéciales, on va baisser la qualité de nos universités. Je l'ai entendu dans ma propre université. Ce n'étaient pas des arguments nouveaux. Mais la société brésilienne, elle, était extrêmement divisée et on parlait des universités publiques, donc gratuites, qui n'étaient pas facilement accessibles. En 2001, il y a un événement extrêmement important. C'est la conférence de Durban, la conférence de l'UNESCO et des Nations Unies contre le racisme, la discrimination et les autres formes de xénophobie. À ce moment-là, il se passe quelque chose de formidable. Il y a 800 à 1000 délégués brésiliens, afro-brésiliens, qui vont se rendre à Durban, en Afrique du Sud. D'abord, ils sont fascinés, ils veulent aller du côté de l'Afrique. Il y a ça. Il y a aussi l'idée de se préparer pour sortir le mouvement du Brésil, sortir de la lusophonie, trouver un espace de dialogue et d'interlocution et faire comme les Autochtones l'ont fait aussi, c'est-à-dire, si ça ne marche pas avec l'État, on va aller se transnationaliser, même si le mot à ce moment-là n'est pas trop utilisé, on va aller parler à ceux qui parlent comme nous. On va aller trouver des interlocuteurs, on va dire que le racisme, ça existe. On va dire ce que nous vivons. Et pendant 2 ans, durant la préparation de Durban, ils vont mobiliser dans toutes les régions du Brésil, et Dieu sait si c'est grand, le Brésil, la société civile, pour parler, faire une sorte des états généraux du racisme et des discriminations au Brésil. Ils vont se relier aussi à des mouvements en Amérique du Sud, notamment une grande réunion à Santiago do Chile, pour discuter afro-latinidade, Et à ce moment-là, le mot Afro-descendant va apparaître, Afro-descendant. Les catégories, hein, ça se crée dans le contexte de réseaux de ce genre. Et surtout, ils vont écrire une première version de ce que fut la déclaration finale de Durban. Si on lit la déclaration de Santiago, qui réunissait des personnes afro-descendantes de l'ensemble de la portion sud-américaine des Amériques, et si on la compare à ce qu'a été la déclaration finale, c'est presque mot pour mot la même. Extrêmement intéressant, une femme, Edna Roland, afro-brésilienne, est là au moment de la rédaction de ce document, à Durban, et dit à celui qui rédige, « C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » Quelque chose se passe, mais derrière, il y a tout un mouvement qui est là, qui est présent, soutenu par les ONG, soutenu par le clergé, un peu par le gouvernement aussi, qui a aidé à cette forte présence afro-brésilienne. Qu'est-ce qui arrive dans cette déclaration de Durban? On affirme l'esclavage, crime contre l'humanité. Le Brésil, comme État, n'a pas nécessairement reconnu cela, pas plus qu'il a effectué un pardon ou ce genre de geste. Ce moment-là a été très, très, très important grâce à un réseautage extraordinaire, grâce aussi aux femmes du mouvement qui, à travers les ONG, la participation à des conférences nationales de femmes organisées par l'ONU, avaient une expérience politique sans précédent, une expérience du transnational, une expérience des mouvements sociaux et une expérience de comment faire le pont entre l'État, la société civile, les organisations internationales et faire vivre une idée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de réparation? C'est mettre l'esclavage et ses conséquences et les demandes, finalement, de transformation sociale, de mettre cela, donc, à l'agenda politique. Et cela, le gouvernement de Lula et le Parti des travailleurs l'a très bien entendu. La stratégie utilisée était aussi de faire apparaître le sujet de droit. Un peu comme pour les Autochtones, ceux qui étaient les sauvages deviennent des sujets de droit à travers les nouveaux instruments que se donnent les institutions internationales, mais aussi, ici, on fait apparaître quelque chose d'autre qu'un bien meuble ou qu'un quasi-citoyen, on fait apparaître un sujet de droit au sens plein. Alors, le mouvement noir développe une idée de réparation qui n'est pas celle de compensation financière, qui n'est pas celle de restitution, quoi restituer puisqu'ils n'avaient rien. Alors, ce sont les actions affirmatives qui deviennent extrêmement importantes, qui prennent un sens. On va leur reprocher d'être trop américains, de trop ressembler, de trop prendre la stratégie du mouvement noir américain, mais au fond, ils vont dire, qu'est-ce qu'on va faire avec quelques reais de plus, quelques dollars, quelques euros de plus, avec notre famille. Ce que nous voulons, c'est avoir des actions, développer des actions pérennes qui, au fil des générations, vont agir pour les jeunes, pour ceux qui nous suivront. Nous voulons des changements structuraux. En cela, l'idée de politiques sociales qui vont faire la différence devient celle qui va s'imposer à partir de Durban et celle que va suivre ce gouvernement. Ce gouvernement de Lula va agir dans plusieurs directions très rapidement après son élection. En 2003, par exemple, il va mettre en place le secrétariat pour la promotion des politiques de l'égalité raciale, le CEPIR. Il va créer une loi obligatoire de l'enseignement de l'histoire et de l'Afrique et de la culture afro-brésilienne et indigène dans les écoles publiques. Tout ça, c'est toutes sortes de débats. On peut y revenir. En 2003 aussi, il va faire un nouveau décret pour les quilombos. Il y en avait eu précédemment, mais il vient renforcer, dans le fond, un dispositif constitutionnel, celui de 88, de la Constitution nouvelle, dite là-bas au Brésil, et le rendre plus opérationnel. Et il va aussi lancer hein, soutenir le mouvement des quotas qui aura énormément de difficultés à finir par arriver, dans lequel on parle d'une réserve de 50% des places dans 59 universités fédérales et de 38 institutions pour les personnes de couleur et les personnes en situation de pauvreté. Tout cela vient en quelque sorte d'un maillage extraordinaire qui se fait entre le mouvement qui se préparait depuis des années et des années et des années, sa compréhension du travail à faire avec l'État en ayant fait le geste de passer par-dessus l'État et de se donner une nouvelle légitimité. Mais bien sûr, il y avait un acteur particulier, ce gouvernement, bien qui n'est pas le gouvernement actuel, on s'entend. Dans le champ de la culture, je reviens sur Abdias de Nascimento, qui malheureusement nous n'avons pas pu écouter. Il va créer en 1950 un théâtre, le Théâtre expérimental du Noir, qui est extrêmement connu ici en France, puisqu'il a eu des résonances à toutes sortes d'endroits. Mais ce qu'il met en place, c'est quelque chose de formidable. On est en pleine dictature Vargas, à un moment où les communistes sont... Il y a une chasse, hein? Ils sont très, très réprimés. Abdias de Nascimento et une majorité de gens qui sont dans le mouvement sont d'obédience communiste. Alors, la culture devient un champ. On investit, hein, la culture, puisqu'on ne peut pas parler directement de politique, on le fait autrement. Alors, ce qu'il va créer, c'est ce théâtre extraordinaire qui va accueillir des domestiques, des gens ordinaires, qui va accueillir des personnes qui vont, à travers ce théâtre, s'alphabétiser, qui vont construire avec cette personne et d'autres une sorte de conscience politique nouvelle, qui vont s'affirmer en tant que sujet noir dans cette société, qui vont affirmer aussi la possibilité d'apparaître. Celui qui est un bien meuble n'apparaît pas en tant que sujet, on se comprend. Là, ici, on parle d'un travail de subjectivation par une forme de culture et de politisation qui est particulière. Dans le théâtre, à l'époque, on ne pouvait, en tant que noir, qu'apparaître comme un blanc peint. Alors, de créer un théâtre comme celui-là, c'était vraiment un geste extrêmement révolutionnaire. Ce sera un haut lieu de l'activisme noir. Il y aura des pièces de théâtre qui vont sortir de tout ça, bien sûr, célèbres. Il y aura un journal, Quilombo, il y aura des réseaux, et vont commencer à apparaître des éléments de la religiosité afro-brésilienne, des éléments qui étaient considérés comme diaboliques. N'oublions pas l'importance de la religion catholique dans ce Brésil-là. Et ce qui appartenait au monde africain et à la possession était quelque chose de vu comme extrêmement dangereux. Donc, de rendre publique la figure des absents et de faire apparaître des symboles condamnés à la diabolisation, c'était aussi un geste extrêmement important de la part de Abdias do Nascimento et des gens qui travaillaient avec lui. Il met l'Afrique au programme de son théâtre. Ce que font les jeunes du mouvement ensuite, à partir des années 80-90 et très fortement dans les années 2000, c'est de travailler très fortement cette culture afro-brésilienne dans une multitude de directions. Dans une multitude de directions qui vont prendre le chemin du théâtre en reprenant des expériences de théâtre telles que celles que je viens de décrire, mais aussi en faisant de la photographie sociale, du vidéo, par la danse, le funk aujourd'hui, en faisant de la culture des favelas, culture populaire, quelque chose qui doit entrer finalement dans le champ élargi de la culture et compter en quelque sorte et trouver là une voie politique qui a difficulté de prendre d'autres chemins. Important de dire que le corps de l'esclave devient dans ce contexte un corps citoyen par la voix par l'image et par une poétique afro-brésilienne. Et certains éléments de la culture afro-brésilienne durant cette même période vont finir par compter davantage. La capoeira, hein, qui a été interdite durant la période de l'esclavage, officielle de l'esclavage, le jongo, toutes sortes de manifestations afro-brésiliennes vont finir par trouver écho, hein, dans la culture brésilienne au sens large, mais aussi, par exemple, la samba être reconnue comme, patrimoine, hein, culturel, de patrimoine immatériel de l'humanité. Je dirais que cette culture, c'est l'élément le plus compliqué, on peut dire, quand on va au Brésil, mais cette musique, on l'entend partout, et ces jeunes, cette samba, elle est partout, elle est, tout le monde la pratique, en quelque sorte. Oui, mais il y a quelque chose de plus compliqué lorsque nous parlons de la culture, c'est lorsque nous parlons de la subjectivation politique par la culture, nous venons de transformer un objet, je dirais, de culture populaire ou de folklore en quelque chose d'autre qui permet la transformation des subjectivités, qui permet la transformation aussi de qu'est-ce que c'est qu'être un sujet afro-brésilien dans cette société. On va souvent dire que les afro-brésiliens qui travaillent ces questions, cette idée de culture afro-brésilienne, tournent trop fort du côté de l'Afrique. On va parler, hein, d'une africanisation, hein, des références afro-brésiliennes. C'est une forme d'essentialisme stratégique à la Spivak. Hein. C'est une façon de dire, nous regagnons en quelque sorte ce lieu d'où nous venons, mais jamais on ne veut vraiment retourner en Afrique. On dit, nous ne sommes pas africains, nous sommes brésiliens et afro-brésiliens. Et cette référence à l'État est toujours extrêmement intéressante. Jamais le drapeau brésilien disparaît du décor. On se dit afro-brésilien, on fait partie de cette nation plurielle et on veut dire on ne veut pas disparaître de celle-là. Au plan religieux, ça va bien. Au plan religieux, donc avant le plan religieux, peut-être dire, on parle donc ici d'un mouvement social hybride, pluriel, rhizomatique, qui agit par et pour, dans des entrelieux, dans des espaces qu'il crée. Non pas dans un espace qu'on lui donne, qu'on lui offre. Lorsqu'on lui donne, lorsqu'on lui offre, c'est parce que le travail a déjà été fait et qu'on vient boucler, en quelque sorte, un itinéraire, un chemin, des demandes sociales, et qu'on vient prendre acte de l'héritage du passé. Sur le plan religieux, il y a un exemple extraordinaire qu'on peut donner, c'est celui du candomblé. Le candomblé est une religion afro-brésilienne qui, elle n'est pas la seule des religions afro-brésiliennes, puisqu'on a aussi l'Umbanda, mais j'ai plus travaillé la question du candomblé, puisque c'était quand même la première de ces religions arrivées d'Afrique, hein, qui a été interdite dans les lieux de l'esclavage, dans les fazendas, par exemple, et que les captifs, hein, dont les captifs ont en partie conservé une part de la mémoire et pratiqué certains rituels dans les lieux où ils pouvaient vivre. Mais durant la période de l'abolition, la deuxième, commencent à apparaître des terreiros à Salvador de Bahia et vont arriver des terreiros un peu plus tard à Rio de Janeiro. Cette religion composite, elle a quelque chose d'extrêmement important. Lorsqu'on fonde un terreiro, lieu de culte afro-brésilien, on implante ce qui s'appelle, on fait le plantão, c'est-à-dire on creuse dans la terre et on vient placer un élément rituel dans cette terre pour dire ici nous existons et ici ses ancêtres auront droit de citer. la place de cette pierre, c'est aussi la place de l'âme des ancêtres. Les ancêtres accumulés, hein, ceux qui furent jetés à la mer dans les navires négriers, ceux qui sont morts, arrivés de la traversée, jetés sur les plages ou encore dans des cimetières de fortune. Ceux qui aussi ont fondé ces terreaux et dont on a divinisé, hein, certains des membres. Cette continuité-là, elle est extrêmement importante, puisque lors des cérémonies de Candomblé, extrêmement impressionnantes pour ceux qui ne les ont jamais vues, l'incorporation des ancêtres par la transe est un moyen de communiquer avec les dieux, mais c'est aussi un moyen de faire revenir les ancêtres dans le corps des personnes et avec l'assemblée des participants, et de dire le lien entre l'Afrique, l'ancestralité africaine et l'ancestralité brésilienne. Qu'est-ce que devient la réparation dans ce sens-là? C'est une réparation symbolique, bien entendu, mais c'est la recréation du lien brisé que fut celui de l'expérience de l'esclavage, d'avenir de familles qui ont été séparées les unes des autres, de familles linguistiques qui ont été séparées les unes des autres, de familles ethniques qui ont été aussi séparées les unes des autres pour mieux contrôler les personnes. Par la spiritualité, la transe et cette religion de mémoire et de culture, puisqu'un grand nombre de symboles faisant partie de la culture brésilienne et non seulement afro-brésilienne viennent de ces lieux de mémoire et de religiosité. Qu'est-ce qui se passe en dehors de ces terreaux? On a aussi des acteurs religieux extrêmement importants, intéressants. Il y a maintenant au Brésil, il y a toujours un mouvement de reconnaissance des religions afro-brésiliennes qui ont été aussi chassées, hein, des centres-villes, qui ont été placées dans des situations d'illégalité. Aujourd'hui, bon, la lutte se fait entre les néo-pentecôtistes et ces religions, l'Umbanda et le Candomblé. Mais il y a une ethno-théologie. Il y a des théologiens, des leaders religieux de toutes les religions au Brésil, à l'exception des néo-pentecôtistes, qui s'allient avec les acteurs religieux du Candomblé et de l'Umbanda pour penser la question d'une interreligiosité, d'une part, et de l'acceptabilité sociale de ces formes religieuses basées sur la transe. Et religion juive, extrêmement importante dans le lien avec les leaders du Candomblé. La religion baptiste est extrêmement importante. Un certain catholicisme de gauche est extrêmement important. J'ai interviewé toutes sortes de leaders de différentes religions qui m'ont toutes exprimé des points de vue sur l'idée de réparation d'une manière théologique. Et c'est extrêmement fascinant d'entendre que cette idée de réparation de manière religieuse passe par deux choses. La réinvention même des catégories héritées des religions du livre, l'apparition du sujet noir dans ces religions et la reconnaissance du rôle de certaines religions, particulièrement protestantes et catholiques, dans l'institution même de l'esclavage. Je n'irai pas trop loin dans cette ethno-théologie, mais la pensée de ces personnes, la profondeur de leur réflexion est absolument extraordinaire. Donc, dans les lieux de culte, hors des lieux de culte, dans la société civile aussi, un mouvement de réparation se crée. On parle ici rhizome, réseau, quelque chose de très étendu, d'une sorte de transnationalisation du mouvement noir contemporain, mais qui a été précédé par différentes périodes historiques que le temps de cet exposé ne me permet pas de traiter. Je n'ai pas parlé des révoltes d'esclaves durant la période de l'esclavage qui ont précédé le mouvement noir. Donc, ce sujet noir qui va apparaître, et je voudrais qu'on comprenne bien que l'idée de réparation, c'est aussi l'idée d'une nouvelle forme de subjectivité noire qui se crée. On parle de sujets victimes qui vont devenir acteurs de leur propre histoire, qui vont devenir acteurs politiques et culturels, qui vont ouvrir la voie à autre chose qu'à la victimisation. Et s'il y a quelque chose d'exemplaire que donne ce mouvement au reste de cette réflexion très grande que nous avons dans les sociétés occidentales autour des héritages de la colonisation et de l'esclavage, et autour du problème de ceux qui ne sont pas fils ou filles directes de ceux qui furent esclaves, mais qui ont hérité d'une part de l'expérience et qui ont hérité des aspects délétères de certaines des politiques. J'inclus les politiques canadiennes, je n'ose pas parler des politiques françaises, je laisse cela aux Français, mais ça donne à penser quand même. Qui sont ces jeunes aujourd'hui, ces jeunes afro-brésiliens, ces jeunes autochtones, ces jeunes des banlieues? Qui sont-ils? Que peuvent-ils faire pour eux-mêmes maintenant et travailler cette question des réparations? Je pense que la question peut être partagée. Ils ont aussi, à l'intérieur de ce mouvement, travaillé le mythe national. Vous savez, il y a un mythe au Brésil qui s'appelle celui de la démocratie raciale. La démocratie raciale qui nous dit, grosso modo, finalement, le sujet noir, qu'est-ce que c'est? Le sujet brésilien, pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est? C'est ce mélange heureux entre la rencontre de toutes les civilisations, quiconque fait un peu de tourisme, on nous vante ça, que c'est magnifique. C'est vrai qu'il y a quelque chose en apparence, à la première vue, de magnifique, de voir cohabiter noir, blanc, japonais, jaune, toutes les couleurs de peau, et se dire qu'il y a quelque chose de formidable dans ces moments festifs où on se retrouve. Le carnaval brésilien est extraordinaire. Mais derrière, il y a quelque chose qui s'efface. Ce que pensent maintenant les indigènes, et ce que pensent aussi les gens du mouvement noir, nous sommes disparus dans cette agglomération. Nous ne pouvons pas apparaître dans le mythe national, puisque le mythe national phagocyte tout. Il ne parle pas de pluralité, il parle de un. Je pourrais faire un pendant avec le multiculturalisme. Il y a une part du multiculturalisme, cette mosaïque, où vous mettez tout le monde ensemble égal, et puis finalement, il n'y a plus personne qui existe. Alors, ça crée beaucoup, beaucoup de difficultés. On pourrait parler de ça aussi. Alors, la critique du mythe national est quelque chose d'intéressant, qui survient aussi dans ce mouvement et qui va jouer un rôle dans cette expression emblématique du mouvement. La fin de l'esclavage n'a pas eu lieu. Bien sûr, il y a une fin officielle. Ce qu'ils veulent dire, c'est bien autre chose. C'est cette réalité d'un héritage complexe, difficile, d'un temps long, qui est encore trop long, d'une soif d'être citoyen à part entière. Dans tout cela, il y a un travail de reconnaissance. Ce mouvement fait advenir quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. On l'a compris, il y a un momentum politique dans les années 2000 avec l'arrivée du Parti des travailleurs qui avait été préparé antérieurement, bien sûr. Mais ce parti va être très, très fort dans l'avènement, la reconnaissance, la légitimité, la diffusion, le renforcement de toutes les initiatives afro-brésiliennes. Et mon ami Hebe Matos peut en témoigner largement. Nous sommes des complices de tout cela et de l'observation de ces mouvements politiques et culturels. Il ne s'agit pas seulement d'identité, vous m'avez compris. Il s'agit de subjectivation qui passe par des actions de tous les jours, morceau par morceau, qui vont créer ce que j'appellerais une nouvelle culture afro-brésilienne dont les sujets noirs sont les auteurs. On peut parler d'un mouvement de reconnaissance, on peut parler aussi d'une transformation de l'expérience de la minorisation. Lorsque le mouvement considère que 50% de la population brésilienne est afro-brésilienne, je n'entre pas dans le débat des statistiques parce que c'est absolument détestable, mais imaginons que cette donnée existe. On va ici comprendre que même si on fait partie d'un groupe qui pourrait être conçu comme 50% de la population, on peut être minorisé. Hein? La minorisation, la disqualification de son expérience, partie d'une culture qui est hégémonique, hein, qui pense les choses autrement que vous, ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, tout le travail qu'il va faire, ce mouvement, c'est de transformer la version hégémonique de la nation en une version qui va mettre de l'avant l'expérience de la minorisation et contribuer à sa transformation. La reconnaissance, et là je suivrai en cela la pensée de Axel Honneth, sans la détailler, mais se rappeler que Axel Honneth nous rappelle que le droit est extrêmement important. Sans la reconnaissance de l'État, à un moment donné, on reste dans l'identité. Hein? Et c'est souvent le problème qui est arrivé à de nombreux mouvements sociaux, dans les nouveaux mouvements. Tant que l'État n'agit pas pour, non pas clore, mais ouvrir la reconnaissance, quelque chose de l'ordre du ghetto persiste. Si on pense au mouvement LGBT, par exemple, ce mouvement a été extrêmement ghettoisé. Il peut continuer à l'être. Quand les questions de mariage, qui ont été un débat extraordinaire ici, sont arrivées, quand l'État devait légiférer autour de ces questions, il pouvait permettre une déghettoisation et faire entrer par le droit la question de nouvelles subjectivités qui passent par la reconnaissance de la pluralité des identités sexuelles et de genre. On pourrait donner d'autres exemples du même type. En fait, il y a tout un travail de base qui vient des mouvements sociaux, qui vient du travail des milieux associatifs, des plus grandes associations jusqu'aux plus petites. J'aime bien cet exemple de femmes, parce que j'ai entendu parler là récemment de ces femmes qui travaillent dans les banlieues françaises par rapport à la situation des jeunes. Et il y a des équivalents au Brésil avec ces femmes qui sont celles qui gardent, je dirais, ces lieux de souffrance, ces lieux d'impunité. Bien sûr, les favelas, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et qui travaillent ensemble, mais ces associations n'ont rien. Elles n'ont rien, elles ne sont pas soutenues. C'est elles qui font vivre les choses. Quand vous entrez dans une favela de ce genre-là, et que c'est un jeune de 10 ans qui est avec son cellulaire devant vous et qui surveille où sont les narcotrafiquants pour vous laisser passer, ce que j'ai vécu plusieurs fois, et que vous voyez des femmes derrière des petites maisons de bois qui sont cachées elles aussi derrière parce qu'elles se demandent s'il y a quelqu'un comme moi qui passe par là, est-ce qu'il n'y a pas des tirs qui vont vous arriver? Dieu est mon âme. Il ne m'est rien arrivé. Mais cette expérience-là est extrêmement forte. Et j'ai été impressionnée par ces femmes qui travaillent autour des prisons pour leurs enfants, pour leurs jeunes, qui sont ces héritiers, ces pauvres-là, et qui travaillent avec presque rien. C'est ça aussi, réparer par le bas, très difficilement. Je voudrais terminer, je pense que mon temps de parole doit être à peu près comblé, que autour sur la justice transitionnelle. J'ai été présentée tout à l'heure comme quelqu'un qui réfléchit sur le droit. Je m'intéresse énormément. Vous savez, tous les jours, on ouvre les journaux et c'est désespérant. Toujours. Tous les jours. Tous les jours. Parfois même, je ne les achète plus tellement je deviens désespérée. Et j'aime beaucoup regarder du côté de l'espoir. Pourquoi? Pour travailler avec espoir. Pour ne pas m'effondrer comme on pourrait s'effondrer. Tout le monde, devant d'autres faits qui arrivent maintenant au-delà de ce qui se passe au Brésil, qui arrivent peut-être en France, qui sont des faits qui sont arrivés aux États-Unis, que je ne nommerai pas. La justice transitionnelle, c'est quand même un des moyens dont se sont dotées les organisations internationales pour faire apparaître quelque chose qui est, on va condamner des personnes par rapport à l'impunité de crimes contre l'humanité. De suivre ces mouvements-là, c'est extrêmement intéressant. Mais par rapport à ce qu'on est en train de vivre, de ce que je raconte autour du Brésil, est-ce que, par exemple, le régime des droits humains peut faire quelque chose sur des histoires qui, encore une fois, se sont déroulées sur plusieurs siècles? Est-ce qu'on peut appliquer la justice transitionnelle et l'appareil des droits humains au régime esclavagiste qui a prévalu du Moyen Âge jusqu'au moment des révolutions ici en Europe? Non. Voyez-vous, la justice transitionnelle, c'est encore un élément qui nous arrive dans le contemporain. Ça aussi, ça a à être travaillé. Mais c'est quand même quelque chose de plus qu'on n'avait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Pensez le monde, pensez la justice avec ceux qui la font advenir. Même dans les conditions les plus difficiles, c'est peut-être se donner une chance de faire avancer quelque chose qui s'appelle ce projet inachevé des droits humains et cette idée de justice transitionnelle qui, aujourd'hui, prend une certaine importance. Alors, les réparations, j'ai parlé de celles qui adviennent par le bas. J'ai parlé des relations entre un mouvement social dont certains des ressortissants se sont retrouvés finalement au gouvernement, ont agi en interlocution avec ceux de la société civile, ont fait un travail formidable. Il y a eu aussi des scientifiques. J'ai parlé d'un mauvais exemple au début, mais il y a eu aussi des scientifiques engagés qui ont, pendant plusieurs années, œuvré à cette forme de reconnaissance en montrant ce que ça signifie l'exclusion, ce que ça signifie ne pas être un citoyen de plein droit, en travaillant à la valorisation des actions de ce mouvement et de ce proto-mouvement. Alors, je n'ai pas voulu parler des pardons, que je trouve bien minces par rapport à l'histoire que je viens vous raconter, même si c'est bien de le faire. Dans le cas brésilien, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuses publiques, il y a des actions politiques qui ont été conduites. Maintenant, l'avenir est plus qu'incertain dans le contexte de ce gouvernement d'extrême droite qui s'est apparé le pouvoir et qui met à mal la pluralité. Surtout la pluralité. Il semble vouloir jouer, instrumentaliser la notion de droits humains, mais pour la pluralité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, je vous remercie de votre attentive écoute.
Merci Francine. Je pense que on va peut-être ouvrir le débat. Moi, je voudrais juste dire que j'étais très sensible à la façon dont tu as à la fois fait un exposé très concret sur la façon dont les choses s'élaboraient par le bas, comme tu dis, tout en tenant les deux bouts, c'est-à-dire l'importance de la reconnaissance étatique, donc de la reconnaissance partagée dans l'espace public. Mais je ne veux pas abuser, mais je pense que Mantia peut-être parmi nous.
Merci beaucoup, Francine. Communication très intéressante et illuminante aussi. J'ai beaucoup appris. Moi, je viens surtout du côté de l'Amérique noire et je faisais des comparaisons au fur et à mesure que vous parliez. En Amérique, aux États-Unis, on parle aussi beaucoup de séquelles de l'esclavage, de la continuité de l'esclavage dans les structures sociales en Amérique. Le dernier exemple, par exemple, c'est le Electoral College aux États-Unis. C'est pas comment on dit. Le collège électoral aux États-Unis qui permet aux gens, qui a permis à Trump de gagner, par exemple. Donc, vous m'avez beaucoup rappelé de cela. Et ça sort directement de l'abolition de l'esclavage. Et les États du Sud se sont organisés pour qu'ils puissent avoir une représentation dans les élections américaines. Et donc, que cela se répète maintenant, ça m'a paru très intéressant. Et j'étais aussi impressionné par votre idée de corps de l'esclave qui devient un corps citoyen. J'ai beaucoup aimé ça, parce que c'est une forme de représentation qui existe aux États-Unis aussi. Et j'ai pensé à la réparation et votre manière d'expliquer la réparation qui me rappelle beaucoup Édouard Glissant, parce que Wole Soyinka, pour lui, la réparation, parce qu'il pense à l'Afrique, la réparation, c'est la restitution. Donc il faut au moins renvoyer les masques et les statues pour faire un geste. Une restitution de ce genre-là. Et aux États-Unis, bien sûr, vous avez parlé de multiculturalisme, de quotas, qui est très intéressant. Mais récemment, on a eu Orlando Patterson qui a critiqué, il avait critiqué le multiculturalisme justement parce que le multiculturalisme n'a pas réussi. Avec le multiculturalisme, la middle class américaine dont je fais partie a abandonné les Noirs dans les ghettos. Et donc, c'était sa critique plus ou moins. Et j'étais... Pardon?
Non, on répète parce que...
Ah oui, bon ben, I'm sorry. Donc, Orlando Patterson faisait partie des membres de notre colloque ici. Il a fait une présentation où il disait qu'avec le multiculturalisme, mais aussi avec les droits civiques, les luttes des droits civiques aux États-Unis, on a formé une middle class de Noirs américains qui n'ont pas pu agir sur le nombre, c'est-à-dire... pour diminuer le nombre de Noirs incarcérés dans les prisons américaines. Donc c'était à peu près sa thèse. Et moi, j'ai travaillé, je ne connais pas du tout le Brésil, donc j'étais vraiment impressionné. Je connais le Brésil des Abdias, parce qu'il venait souvent non seulement à Paris, mais à New York aussi. Et j'allais poser la question justement de l'influence de la négritude sur Abdias, et surtout les gens comme Josimo Bulbil et Joel Zito Arasio, les cinéastes qui ont travaillé avec Abdias et qui ont continué justement ce mouvement de culture noire. Donc je suis allé une fois à Rio, mais aussi à Bahia, et ainsi de suite, pour travailler avec Josimo, qui est décédé aussi, il y a à peu près, il y a une année de cela, mais il était dans les films, dans le théâtre de Abdias. J'étais très interpellé par ça. Le Brésil est fascinant parce que le Brésil attire beaucoup les Américains noirs, mais en même temps, les Américains noirs, ils vont là-bas et ils créent toujours des problèmes parce qu'ils veulent parler de la race. Et les Brésiliens ne veulent pas parler des races. Et on a eu un débat dans les années à peu près 90 où Bourdieu ici, Loïc Wakan qui était plutôt du côté des Brésiliens, et puis nous autres aux États-Unis qui voulaient coûte que coûte qu'on parle des races. Donc moi j'étais très très impressionné par votre présentation. Je reviens juste pour clore. Je disais que ça me rappelait Édouard Glissant parce que pour lui, la réparation, c'est surtout la relation, c'est relier, c'est soigner. Et aussi, c'est il parlait aussi du fait que, qui est très très intéressant, mais je ne sais pas si je vais pouvoir bien le dire en français. C'est comme on dit en anglais, to remember. Alors dans le mot remember, il y a aussi le mot, c'est d'abord c'est souvenir, mais aussi il y a re et puis member, c'est-à-dire amener les membres ensemble. Voilà. Qu'on avait découpé, donc les coller ensemble. Réparation dans ce sens-là, quand vous parlez des religions africaines en contact avec les religions brésiliennes, comment les lier et les relier. Et dans ce sens-là, ça m'a beaucoup fait penser à la poétique des relations d'Édouard Glissant. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. On va ouvrir le débat.
Merci. Oui, merci beaucoup. Je trouve que c'est toujours extrêmement frappant d'entendre quelqu'un qui, justement, n'est pas du contexte national français parler de situations exogènes. Et ici, on entend surtout une critique très acerbe vis-à-vis de toutes ces politiques pluriculturelles, y compris au Brésil. Et là, vous nous donnez quand même des éléments positifs pour... qui ne sont pas uniquement politiques, justement, qui sont aussi des dynamiques culturelles, qui sont des dynamiques religieuses, qui sont des dynamiques artistiques, etc. Et donc, ma question, c'est... vous avez parlé d'ethnothéologie, et je trouve ça extrêmement intéressant, et je voulais vous demander, justement, manifestement, là aussi, c'est un mouvement qui est plutôt pluriconfessionnel. Et d'ailleurs, vous n'avez pas parlé de l'islam, alors qu'on sait que l'islam se développe également au Brésil d'une façon tout à fait inédite. Mais donc, toutes ces religions qui, alors, si j'ai bien compris, réinvestissent en quelque sorte une perspective de culte des ancêtres, c'est ça ? Qu'on retrouve aux États-Unis vraiment de façon extrêmement minoritaire, mais qui existe aussi dans ces cultes Yoruba, etc. Mais donc, je voulais que, voilà, si vous pouviez développer un tout petit peu plus sur cet aspect des choses qui me semble particulièrement intéressant, parce que là, effectivement, il y a à la fois des religions qui se présentent comme universelles et en même temps qui réintroduisent donc une espèce de fidélité de lignage. Comment ça se joue, ça aussi, enfin, c'est une autre forme de réparation. Parce que réparation, ça a deux sens. Hein, c'est réparer, je veux dire, du point de vue de la culpabilité, on répare le mal qu'on a fait, mais réparer, c'est aussi restaurer, se restaurer, enfin, je veux dire, c'est les deux. Donc là, ça me semble justement être du côté de se restaurer, enfin. Retrouver la santé, quoi, pour dire les choses. Et voilà, ça me semble particulièrement intéressant que cet aspect des choses.
Ça n'a pas l'air de marcher,
c'est pour l'enregistrement.
Oui. Merci pour votre question. J'aime beaucoup restaurer. Peut-être un petit point comme ça, se rappeler que. On l'a dit, hein, j'aime bien la pluralité de la pluralité. Alors, au Canada, chez les peuples autochtones, la notion de réparation passe par deux choses. La terre, hein, la restitution de la terre, et la guérison. Guérir, donc au sens sans doute du soin, hein, de Édouard Glissant. La restauration, je pense que si je vais un peu plus loin. Donc, vous aviez une partie de votre question qui touche l'ethnothéologie et une autre partie qui est plus large et qui touche la notion même de réparation. Autour de l'ethnothéologie, je l'ai appelée comme ça parce que les personnes avec qui j'ai pu travailler et avec qui j'ai vécu aussi des cérémonies interreligieuses, incluant des protestants qui acceptent le candomblé dans leur mur, et qui risque un certain nombre de choses. Hein, parce qu'à chaque fois que dans ces religions on fait des gestes comme ça, c'est pas évident. Alors, incluant aussi avec le catholicisme. Donc, cette ethnothéologie, c'est cette création de nouveaux espaces religieux qui vont au-delà de la religion, disons, d'appartenance hein, des personnes et au sein desquels des penseurs, parce que ce sont des pratiquants, mais aussi des penseurs, des gens qui disent « ça ne se peut plus, on ne peut plus penser les choses comme on les a toujours pensées ». Ces leaders ont une influence extraordinaire sur des croyants. La première fois que je me suis retrouvée dans une messe catholique à Rio de Janeiro, c'était dans la Baixada Fluminense, chez un prêtre qui s'appelle Frei Tata. Et ce prêtre, j'étais comme sciée d'assister à ça, je n'en revenais pas. Pour l'occasion, je m'étais habillée en rouge, c'était comme ça. C'était une journée où j'avais envie d'être en rouge. Et là, il y a une dame qui me dit « Ah, la vinco as cores de Xango, elle vient avec les couleurs de Xango. » Bon, je dis « Ça, c'est bien. » Mais là, moi, j'essaie de comprendre un peu dans quoi je suis, j'ai aucune idée hein, qu'est-ce qui va se passer. Et ce prêtre fait un sermon extraordinaire et commence à parler de la situation des jeunes dans la Baixada, des meurtres, des corps disparus, des gens qu'on ne retrouve jamais, des corps qui ne comptent pas. C'est comme si les premières fois que j'entends pour vrai, tu sais, on sait, mais c'est pas pareil quand quelqu'un comme ça vous fait ça, avec des images de ces jeunes dans l'église, avec des images d'esclaves dont on a encore des traces, avec une façon de faire la cérémonie catholique qui est transformée, afro-brésilianisée. Lorsqu'on fait ça, on entre dans le rituel, cette personne-là, catholique, et on vient créer une nouvelle forme de théologie qui va donner accès, non pas faire de l'adaptation culturelle, mais faire entrer le sujet et la subjectivité noire dans cet espace-là qui ne les prévoyait pas. On peut le faire aussi dans l'autre sens. Je l'ai vu aussi du côté du candomblé. Hein. J'ai pas vu des milliers de cérémonies religieuses, mais j'ai entendu beaucoup de ces penseurs des religions chercher à ouvrir les catégories héritées de leurs dogmes. On entre dans le dogme et dire « pour que nous existions, c'est ce dogme même qu'il faut questionner ». Ce n'est pas rien hein, d'entrer là. Et de l'entendre à différentes voix, de différentes manières, chez différents interlocuteurs, dans différentes religions, là vous dites « il se passe quelque chose ici » ou « je comprends rien » ou « je comprends qu'on crée cet espace que j'appelle ethnothéologique et qui transforme finalement les religions pratiquées par ceux qui viennent à ces rituels et qui cherchent un espace où ils vont avoir une place élargie dans la société. Par rapport à votre autre question autour de la notion même de réparation, écoutez, au fond, je vais apparaître étonnante. Je me pose encore la question de ce que c'est, puisqu'elle est infinie. C'est un peu comme la démocratie, c'est un peu comme le droit. Je veux dire, c'est des questions qui ne se... Hein? Elles sont ouvertes surtout que parler de réparation d'un tort historique, ça ne fait pas des siècles que nous discutons de cela. C'est quand même relativement récent. Alors, pour faire avancer le social, pour faire avancer des institutions, pour penser que le pardon, ce n'est pas une chose ridicule, pour penser que la justice, ce n'est pas quelque chose qui est une bébelle des élites, mais qui est aussi dans les mains des personnes qui ont été considérées comme des victimes, pour penser d'ouvrir les catégories du droit d'une manière qui rende possible ces réparations au sens élargi et non pas limité à quelques gestes. Je n'ai pas terminé de réfléchir là-dessus. J'aimerais pouvoir faire des comparaisons. Je donne un exemple sur ce caractère inachevé. C'est ce qui s'est passé, je reviens chez les Autochtones du Canada. Lorsqu'on a eu la commission Vérité et Réconciliation là, ces derniers temps, et là on a une nouvelle commission sur les meurtres des femmes autochtones, vous voyez, c'est pas parce qu'on est en plein multiculturalisme que les choses sont réglées. La pluralité en soi résout pas les choses, c'est ce qu'on en fait. Alors, autour de cela, la commission, elle réglait pas la colonisation. Est-ce qu'on va réparer la colonisation au complet? Qu'est-ce que peut faire le droit? Il peut dire, il y a eu des écoles dans lesquelles ces jeunes ont été obligés d'être retirés de leur communauté, de perdre leur langue, de perdre leurs racines, d'être blanchisés et ensuite de retourner dans les réserves indiennes et de souffrir d'alcoolisme, de perte de liens. Bon, ce qui arrive un peu partout dans les Amériques, hein, pour les Autochtones. Mais cette commission, elle agit sur un fait, les écoles. Elle n'agit pas sur tout. Là, c'est la limite, encore une fois, du droit pensé dans... On a des communautés religieuses qui sont impliquées. On a des survivants qui viennent témoigner, qui racontent leur histoire. C'est plein. Si vous allez sur le YouTube, vous pouvez écouter les récits des Autochtones parler de leur souffrance. C'est extrêmement troublant. Mais est-ce que cela, en reposant la question des réparations, c'est suffisant? J'aimerais croire qu'une réflexion comme celle que j'apporte peut montrer que nous avons besoin du droit. Mais nous avons besoin d'une multitude d'actions comme celles qui ont été faites au Brésil sur des années par des générations de jeunes et de moins jeunes qui ont investi leur propre histoire pour transformer des choses. Et cela, je pense que c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et je dirais, quand j'étais au Brésil toutes ces années pour cette recherche en particulier, je pensais tellement à la situation des Autochtones au Canada et je me disais, s'ils pouvaient voir ce qu'ils font, s'ils pouvaient être témoins de ce qui se passe dans ce pays. Mais à ce moment-là, on parle d'une période d'effervescence, on parle d'une période d'ouverture, on parle d'une période de reconnaissance, malgré les débats, malgré des gens très méchants, incluant des anthropologues et des gens des communications, qui étaient les deux pires catégories, pour dire « on fait du racisme à l'envers ». Et moi, quand j'entendais ça, je me disais « mon Dieu, au Canada, si je faisais un truc pareil par rapport aux Autochtones, on me sortirait de ma profession, je serais bannie ». Hein, j'aurais peine à m'adresser à des étudiants et à des collègues, puisqu'on me considérait comme... Bon, je dis pas. Alors, voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, elle est tellement grande finalement pour moi. Mais je la trouve importante. Ce que je tire de toute cette recherche, c'est un exemple d'un moment politique, historique, particulier, d'une société qui a réussi cette ouverture. Et revenant aux États-Unis, il n'y a pas eu de loi ségrégationniste. Hein? On n'a pas eu de James Crow et Jim Crow au Brésil. Ce qui a permis de penser que oui, il y avait eu tout ce métissage parce qu'on n'a pas séparé complètement les populations en deux comme ça s'est fait aux États-Unis. Mais il y a eu le racisme à la brésilienne et il y a des formes de discrimination qui se spatialisent à travers des lieux qui sont des favelas, des baixadas, des quartiers très populaires ou plus ou moins pauvres selon les endroits où on se trouve. Alors, ce mélange n'a pas été seulement négatif. Il a créé des choses extrêmement positives. Et je dirais que, est-ce que la référence à l'État, la croyance profonde d'être pas seulement afro-brésilien, mais d'être aussi brésilien, de ne pas nier cette identité-là, mais d'avoir le droit de pouvoir le dire. Ça, c'est une autre chose. Hein? Elle change bien des choses. Vous parliez de do Nascimento, que j'ai eu le privilège de rencontrer. C'est un privilège de rencontrer.
Et là, en 1956, ouais. Au congrès des écrivains noirs.
Exactement. Et de la négritude. Et de la négritude. Alors, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. J'ai écrit récemment un article sur Abdias do Nascimento. Il n'est pas encore disponible. Et sur sa trajectoire, qui est très, très proche hein, de celle de Clark, le fondateur des études. Exact. Et cet homme a, oui, fréquenté les idées du mouvement de la négritude. Il a été proche de cela. Il a fréquenté aussi les idées du panafricanisme. Hein. Mais cette influence-là, ça a été celle de sa part d'une reconnaissance de ces intellectuels noirs de la post-colonie, pour paraphraser Achille Mbembe. Mais il a voulu, de son côté, faire quelque chose d'original au continent sud-américain. Et son panafricanisme a été un panafricanisme qui a pris ses distances de la version américaine et de la version du mouvement de la négritude, au sens où, pour lui, le retour en Afrique, même s'il frise un petit peu avec cette idée-là, non. Il dit, on a quelque chose en Amérique du Sud, il entre dans le nationalisme, dans le bon sens sud-américain, on a quelque chose d'unique, hein, et il a créé tout un ensemble d'idées que je ne vais pas développer ici, qui renvoie au panafricanisme sud-américain, qui n'est pas le panafricanisme américain, qui pense le retour en Afrique, et qui n'est pas le mouvement de la négritude, qui est encore quelque chose, finalement, de très influencé par la culture française, n'est-ce pas? Mais tous ces gens-là, quand même, ont des résonances, hein, les uns par rapport aux autres, c'est certain. Et avec Abdias, qui s'est retrouvé dans les congrès qui se sont organisés à Dakar et ailleurs, mais comme personne qui n'avait pas le droit de parler, puisque le gouvernement refusait son existence, sa présence en tant que communiste. Donc, il y était, mais par la voie d'à côté. Alors, il a fréquenté tous ces mouvements, il en a été influencé, mais ça l'a nourri pour développer ses idées afro-brésiliennes de, je dirais, à la fois de la négritude et du panafricanisme.
Il y a deux...
Merci beaucoup pour tout ce travail. Et je voudrais revenir, il y avait quelque chose qui courait sur la question de la comparaison entre les réparations à la fois d'après la Seconde Guerre mondiale pour la question de l'extermination nazie et aussi la justice transitionnelle, donc implicitement l'apartheid, mais aussi le Rwanda ou les après-coups de la violence extrême. Et dans cette comparaison, le temps court et le temps long, et dans une certaine mesure, sur le temps court, le rôle de l'État, en tout cas pour les premiers cas et sur la justice transitionnelle et sur les réparations financières de restitution, et sur le temps long, ce que moi j'appelle les institutions civiles qui peuvent inclure les enjeux théologiques que vous avez évoqués, même si c'est pas de la religion civile, peut-être que ça a partie liée avec un syncrétisme qui n'est pas si éloigné que ça de certains types d'institutions civiles religieuses, et en tout cas ça mériterait une interrogation sur la fonction de ces lieux-là à l'articulation du politique, du religieux et du culturel, et le sentiment que dans une certaine mesure l'État dans votre exposé est à la fois dans ce temps court et puis comme point d'orgue quand les réparations ont réussi à devenir capillaires dans la société. Mais du coup, quelle est la fonction de l'État dans ce point d'orgue? Est-ce que ça réouvre sur quelque chose qui va pouvoir se pérenniser? Ou est-ce que c'est le moment où finalement ça se fige et où, enfin voilà, il y a quelque chose pour moi qui m'interroge sur ce rôle de l'État. Parce qu'on a tendance à un peu opposer politique publique étatique et justement cette auto-institution du social et de la réparation un peu à la capacité de se réparer soi-même, quand vous parlez de ces mères dans les favelas, puisque les autres le font pas, on le prend en charge, puisqu'on est dans une situation extrême, on fait du théâtre, puisque enfin donc là l'intervention de l'État n'y est pas évidemment, mais quand l'État intervient, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était un peu ça. Et donc aussi, du coup, modérer la question du temps court et du temps long, parce que malgré le temps court des démarrages de justice transitionnelle ou de politique réparatrice financière, ça n'empêche pas la nécessité de la réparation capillaire sur le temps long, y compris pour l'extermination nazie, et que dans une certaine mesure, pour les gens qui ont travaillé dessus, c'est pas mon cas, je parle pas du tout l'allemand, mais ce qui a été dit, c'est que ces réparations financières ont permis d'empêcher la capillarité et en particulier d'en parler dans les familles allemandes. Voilà. Peut-être pas dans les familles juives diasporiques, mais dans les familles allemandes. Et donc ça avait obturé aussi quelque chose. Et du coup, voilà, la reconnaissance par l'État et la position d'Axel Honneth, peut-être qu'elle mérite d'être plus discutée.
Oui, je vais me dépêcher. Oui, mais un grand plaisir de vous revoir après le périple jamaïcain. Je suis resté d'ailleurs pour commencer le terrain sur les questions des réparations en Jamaïque et dans la Caraïbe. Et je voulais savoir justement s'ils en parlent au Brésil de ce plan en 10 points de la communauté caribéenne pour des réparations financières, pour des demandes d'excuses et pour un certain nombre de choses. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'ils en parlent au Brésil? Est-ce qu'il y a des ponts qui sont faits entre ce CARICOM, organisation pan-caribéenne, et le Brésil? La deuxième question, c'était vraiment sur la dimension des réparations sur laquelle je travaille, vous l'aurez compris, parce que j'ai l'impression qu'en Jamaïque aussi, il y a une articulation qui est faite entre des mouvements du nationalisme noir, du black power, etc., et la question des réparations qui, comme vous l'avez dit, est récente, ce tournant juridique de justice, etc. Enfin, c'est assez récent, donc pour vous l'avez un peu dit, mais où est-ce que vous situez vraiment ce tournant juridique, pas seulement au Brésil, mais qui a l'air vraiment de se disséminer dans toute l'Atlantique noire, finalement? Voilà. Merci.
Et en Europe, parce qu'en
Europe, en
Allemagne,
ici, mais voilà.
Voilà. Alors, sur la première question, je commence à être fatiguée, alors c'est possible que j'ai un peu de difficulté à me remémorer bien la complexité de votre question. Vous avez évoqué, au fond, la question de la justice transitionnelle, la question du nazisme, la question du temps long et du temps court, et le rôle de l'État. Grosso modo, c'est ce que j'ai retenu comme mot-clé. Je vais me fixer sur la question de l'État. Bon, tout de suite vous dire que j'évoque souvent dans mes exposés l'exemple des réparations dans le contexte de ce qui est arrivé après le nazisme. Je le prends toujours comme point de départ, pour un peu comme un contrepoint, pour dire ce dont il sera question, ce n'est pas nécessairement des compensations, pour illustrer. Je ne suis pas une spécialiste de la question des réparations dans le contexte du post-nazisme, mais je souhaiterais pouvoir élargir la réflexion que je fais à une comparaison rigoureuse qui permettrait d'être sérieuse dans ma réponse avec vous. Par contre, autour de la question de l'État et sur la justice transitionnelle, j'ai évoqué, au fond, j'en ai appelé de cette idée, parce que cette institution, ce type d'institution, certains vont en rire et vont dire, bon, encore une invention des institutions internationales pour faire passer des pilules amères. Et je pense que c'est oublier le fait que nous avons peu d'instruments pour penser les droits collectifs. et pour penser les situations collectives. Le droit, c'est quelque chose de très individuel, hein? Très, 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 très. Alors, c'est bien compliqué quand on parle de situations collectives. Alors, des institutions qui tentent de dépasser, au fond, ce que nous avons comme moyen pour faire avancer le droit, disons la démocratie et la pluralité, et la justice, ce sont celles-là avec lesquelles nous travaillons. Alors, je pense qu'il faut les prendre au sérieux et se poser la question si de telles institutions ne peuvent pas jouer un certain rôle. Mais on parle là de temps long, hein, parce que ce sont des institutions compliquées et on est encore en pleine innovation dans ces milieux. Sur le temps long et le temps court et la question de l'État, vous avez tout à fait bien entendu ce va-et-vient entre la société civile et l'État à un moment donné. Hein, parce qu'à un autre moment donné, dans les années avant la nouvelle constitution de 1988, on parle de dictature, on parle d'une répression des mouvements sociaux, comme ça revient maintenant. On parle de moments où est-ce que l'État ne pouvait pas être un interlocuteur valable. Il n'y avait pas de possibilité. Lorsque s'ouvre la nouvelle constitution, que le Brésil cherche à sortir de ces deux dictatures plus longtemps, hein, en situation de dictature qu'en situation de dite démocratie, il cherche à se donner un certain nombre de moyens pour vivre les choses autrement. Les mouvements sociaux, pas seulement le mouvement noir, vont prendre là une expansion extrêmement importante et une légitimité. Alors, l'État va devenir un interlocuteur. On va s'attendre à ce qu'il soit un interlocuteur. Ça ne va pas marcher tout le temps. Et ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va être du travail. Le temps long, l'État a toujours été là pour dire oui ou pour dire non, pour ne pas reconnaître, pour garder silence, pour nier ou pour faire quelque chose qui va être de l'ordre de la reconnaissance. Je suis d'accord avec vous. Honnête, c'est pas un spécialiste des questions dont on discute, donc il est pas. Je l'amène avec nous, mais c'est peut-être probablement pas le meilleur. Mais ce que j'aime bien de sa pensée, c'est de nous dire, c'est surtout de mettre dos à dos l'identité et le droit. Hein? On a beaucoup parlé des nouveaux mouvements sociaux comme étant des mouvements identitaires. Vous diriez ici en France communautaristes. Ces mouvements communautaristes, dits communautaristes, s'ils ne sont que repliés sur eux-mêmes et ne parlent que de leur identité et ne parlent que dans ces termes-là, c'est sûr qu'ils vont rester longtemps communautaristes et que ça ne va pas aller très loin. Lorsque le travail se fait sur le long terme, hein, dans une subjectivation ouverte et culturelle et politique, puisque la culture, c'est ce qui est accessible. Hein, c'est ce qu'on peut aller chercher. Le droit, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, lorsqu'on fait ce travail, je pense que l'État peut, à ce moment-là, jouer un rôle différent que d'être seulement un interlocuteur. Mais ça prend du rhizome. Ça prend une sorte de fécondation, je dirais, du mouvement à toutes sortes de niveaux et des stratégies multiples. Ce que j'ai aimé dans ce que j'ai observé, ce que j'ai trouvé extraordinairement intéressant, c'est la multiplicité des lieux. Et au fond, en France, ils avaient raison de dire qu'il n'y en a pas de mouvement social. Ils sont partout et nulle part. Et peut-être que c'est ça la bonne affaire. Peut-être que ça crée du tissu, du lien, quelque chose qui n'est pas frontal. En brésilien, on va vous dire « mais ou menos, oui et non » en même temps. Ça va être normal. Peut-être que le mouvement, il est très brésilien. Sous cet angle-là. Je sais que je ne vous réponds pas parfaitement. Je commence à être fatiguée et je manque un peu de clarté, de vue. Autour de votre question, je dois dire que J'ignore exactement comment, autour de ce qui se passe aux Antilles, peut-être que Hebe et Matt en sauraient plus, le lien entre ce mouvement dont vous parlez. Je connais l'existence, mais je ne sais pas jusqu'à quel point ça se relie là maintenant avec le Brésil, qui a beaucoup de liens quand même avec les Antilles, mais je ne le sais pas. Il y a un an et demi que je suis allée au Brésil, je n'ai pas continué à travailler sur cette question de façon frontale. J'ai surtout fait du travail comme on le fait là aujourd'hui. Et je compte, j'espère bien, reprendre, mais d'une autre manière.
Bien, je crois que, voilà, il est tard, on a commencé tard. Merci.
Merci beaucoup.